Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Plaise au ciel que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres. Voilà ce qu'a déclaré récemment le pape François, un extrait de sa dernière encyclique Fratelli Tutti, tous frères en français. Une encyclique tout à la fois en forme de rêve, de vision, d'admonestation ou de critique virulente. Bref, un texte qui secoue et qui d'une certaine manière enfonce le clou d'un pontificat tout entier dirigé vers la sortie, la rencontre. Une lettre encyclique que je vous propose de parcourir ensemble ce matin pour découvrir en ces temps de confinement quel est le monde d'après que le pape François appelle de ses voeux. Lecture de Fratelli Tutti, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner dans cette lecture après la rediffusion du 11 novembre dernier, on entame une lecture plus pointue, plus suivie. On profite de ce temps de confinement pour lire des livres et celui-là. Nous sommes accompagnés ce matin de vous, Bernard Ribal. Vous êtes président des Semaines Sociales de Toulouse et président du conseil scientifique de l'Institut des Hautes Études du Monde Religieux. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous aussi Tanguy-Marie Pouliquin, prêtre religieux de la Communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette semaine de Radio Don, faut-il le rappeler. Cette semaine, c'est la vôtre, chers auditeurs, cette radio n'existe pas sans vous. Je vous redonne le numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Juste un exemple, vous voyez, si Tanguy-Marie Pouliquin veut parler dans le micro, eh bien un micro c'est 350 €, tout simplement. Et donc sans vous, eh ben il n'y aurait pas de micro autour de ce plateau et donc on ne parlerait pas de fratelli. En tout cas jusque dans votre cuisine ou votre jardin ou votre voiture. Alors cette lettre encyclique, on l'a commencé à la parcourir avec vous, Bernard Ribal entre autres, notamment la semaine dernière puisque j'avais rediffusé cette émission. Allez, une première réaction chacun, les lettres encycliques, à la fois on en parle beaucoup quand elles sortent et en même temps elles passent au-dessus de la tête de beaucoup d'autres. Tanguy-Marie Pouliquin, quelle a été votre impression en lisant cette encyclique? Faut-il la lire absolument en ce temps de confinement ou est-ce un petit peu à côté de la plaque, j'ai envie de dire?
Avec cette encyclique, on arrive vraiment dans le concret des gestes à poser. Pas simplement une réflexion sur les fondements, sur les sources, mais une invitation à l'action dans l'ouverture à chacun, en posant des gestes qui produisent un effet dans l'histoire. Donc des gestes incarnés, des gestes qui construisent l'histoire, qui construisent la culture, qui construisent le collectif. Et le maître mot de l'encyclique, c'est à travers un dialogue de créer des proximités de plus en plus importantes.
Bernard Ribal, est-ce que vous avez eu l'impression de lire un rêve impossible? Il me semble que je vous avais déjà peut-être posé la question la fois dernière. On peut avoir l'impression, quand on suit l'actualité et qu'on a le nez sur BFM TV, alors heureusement c'est pas le cas de tout le monde, pardon pour mes confrères, mais que le pape François lui propose un rêve et que entre le rêve et la réalité, il faudrait choisir.
Oui, il y a d'ailleurs lui-même parle de rêve, hein, lui-même parle de rêve. Mais cette lettre a ceci de... vraiment, c'est une performance, quoi, parce que je l'ai trouvée très chaleureuse et en même temps très abrupte. Normalement, ça ne va pas ensemble, quoi. Et pourtant, là, il a réussi à être effectivement chaleureux. C'est peut-être plus chaleureux même que Laudato si, hein, qui est davantage rationnel... Elle est émotionnelle aussi, mais elle insiste davantage sur la rationalité, Laudato si. Là, c'est un peu moins insistant sur le rationnel, le scientifique. C'est davantage sur l'émotion et en ce sens, il y a un intérêt. Oui, bien sûr.
Si on reste dans le domaine de l'introduction de ce texte, on va s'arrêter dans cette première partie essentiellement sur l'avant-propos. Donc c'est 3-4 pages au début, on en citera des passages, mais le pape François fait un parallèle qui peut paraître osé. On a presque l'impression qu'il se compare à saint François, et j'ai envie de dire, évidemment il ne le dit pas comme tel, mais il rappelle cette visite de François au sultan Malik el Kamil en Égypte au moment de la période des croisades. Saint François était donc passé, on va dire, côté ennemi, et lui rapporte cette rencontre qu'il a eue avec le grand imam Ahmad al-Tayeb, qui est donc le recteur de la grande mosquée d'Al-Azhar en Égypte, grande figure du sunnisme, et d'une déclaration commune qu'ils ont eue ensemble. C'est pareil, dans une époque, on va dire, l'époque des attentats, de cette troisième guerre mondiale par morceaux dont parle le pape François. Saint François qui va voir l'ennemi, faire ce parallèle, ça peut paraître un peu, un rêve, c'est ça. Tanguy Marie, qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle ?
Moi, je pense que ce n'est pas un rêve, c'est l'expression d'une aspiration qui est inscrite dans le cœur de l'homme. En témoignent nos expériences personnelles aussi. Hein. Moi, la dernière fois que j'étais au Burkina Faso, je suis allé à la grande mosquée de Ouagadougou pour rencontrer l'imam. Et on a eu une matinée mais extraordinaire de rencontres, de dialogues, très chaleureux, me partageant un peu son histoire, sa foi. Et la rencontre de nos partages de vie spirituelle, ben, c'est heureux. Peut-être qu'il y avait des angles morts, peut-être, dans le dialogue réciproque. Mais partons de cette joie de se rencontrer et de se dire, mais tiens, moi, dans ma culture, je prends les choses comme ça, je vise ça, et en fait, c'est beau. À nouveau, si on veut trouver des fils conducteurs à travers cette encyclique, c'est la notion de dialogue. Donc, c'est pas un dialogue dans la confusion des identités respectives, mais c'est un dialogue qui permet d'écouter, de s'écouter. L'autre est toujours une richesse, même s'il appartient à un référentiel politique, religieux, très différent de nous. Et derrière cette encyclique, c'est de dire que chacun est mon frère, parce que chacun est unique, et s'il est unique, quelque chose qui est unique, c'est riche, et donc ça demande d'être accueilli comme tel.
Bernard Ibal, est-ce qu'on n'a pas d'autre solution, quelque part, à lire le pape François, que d'aller jusqu'à, on va dire, l'extrémité de cette démarche, qui a été celle de saint François d'Assise, en pleine période des croisades, que d'aller rencontrer le sultan en Malik el-Kamil ?
Alors, c'est vrai que, dans les deux cas, à 800 ans d'écart, 8 siècles d'écart pile, c'est vrai que dans les deux cas, il est tout à fait extraordinaire, voire même hors sol, dans les deux cas, dans le cas de saint François d'Assise et le cas du pape François, d'aller rencontrer une très haute personnalité du monde musulman au moment même où il y a des tensions extrêmement fortes. Du temps de saint François d'Assise au XIIIe siècle, c'est les croisades, alors là, ça ne peut pas être plus violent, hein.
Et oui, là, on n'est pas en guerre avec le recteur de la grande mosquée d'Al-Azhar, quand même. C'est...
Non, mais on n'est pas en guerre contre lui, contre la personne du grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, mais on est quand même en guerre avec une part importante de personnes qui incontestablement se réclament de l'islam. Et même la grande mosquée d'Al-Azhar, encore aujourd'hui, là. Et d'accord, sans le dire avec prosélytisme, elle essaye de le mettre un peu sous le boisseau, mais elle est d'accord, par exemple, pour la peine de mort en cas de changement de religion d'un musulman, quand même. Hein. Oui et non. Mais justement, c'est un des mérites du pape que de tenter un pont, comme il dit, plutôt que des murs, de tenter un pont avec une personnalité qui est la plus ouverte à ce genre de démarche et qui est effectivement très connue dans le monde sunnite, même si son influence en ce moment n'est pas forcément des plus fortes.
Alors, je fais un correctif, hein, ce n'est pas le recteur de la grande mosquée, c'est le recteur de l'université d'Al-Azhar. Hein.
Et alors, y a eu effectivement ces rencontres, mais le dernier texte le plus abouti, c'est pas avec ce musulman-là, c'est avec le grand imam Ahmad El Taghiet, donc d'Abu Dhabi. Hein. Donc la dernière rencontre interreligieuse, elle s'est passée aux Émirats Arabes Unis, et c'est là où le pape a signé un texte qui concerne tout ce dialogue avec le monde musulman, mais plus largement avec la fraternité universelle.
Voilà, pardon, merci de ces précisions. Alors, il y a un autre point dans cet avant-propos sur lequel je voulais que l'on s'arrête, c'est que le pape François, quelque part, nous invite à rentrer dans le projet de Dieu, j'ai envie de dire, et dans sa paternité, il y a cette phrase, c'est donc au paragraphe 4, « Seul l'homme qui accepte de rejoindre d'autres êtres dans leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père. Comme si en fait chacun de nous, Tanguy-Marie Pouliquen, était invité à ressembler à Dieu quelque part en choisissant de se mettre les pas dans la démarche que propose le pape François.
Oui, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait à notre égard? Ben, il nous regarde, il nous aime et il nous accueille. Vous avez utilisé ce mot « accueil » et le mot « accueil » de la personne là où elle est aujourd'hui, c'est bien le point de départ de toute approche pastorale. Approche pastorale du pape que l'on peut synthétiser dans l'acronyme ADAI. Accueillir toute personne, discerner là où elle est, à l'accompagner, il utilise par ailleurs un autre mot, la promouvoir, et ensuite l'intégrer dans une culture de la rencontre qui se fait avec toutes ces différences pour ensemble, non pas simplement accueillir les différences, mais ensemble créer un collectif, créer un nous, créer une rencontre, créer un projet commun.
Et alors faire ça avec l'autre, c'est rentrer quelque part dans le projet de Dieu, c'est ressembler à ce Père nous avons.
Le Père, il veut rassembler ses enfants. Le Père veut une unité familiale. Des pères de famille nous écoutent ici, comme des religieux qui vivent en communauté. La joie, la vraie joie du vivre ensemble, c'est de créer un nous qui n'absorbe pas les différences, mais qui les promeut pour créer vraiment une communion qui a le goût de Dieu. Voilà. Donc Dieu nous regarde pour que nous puissions vivre en lui et que nous puissions, par sa présence, nous accueillir les uns les autres pour faire partie d'une même famille et une famille qui a le goût de cette communion trinitaire.
Alors, puisque dans cette première partie, on essaye, on va dire, de voir les grands actes de cette encyclique et puis peut-être de répondre à ceux qui ont des réserves, il y a une autre réserve et critique, c'est qu'on peut lire cette encyclique où on entend parler en se disant, bon, ce pape François, je dis les choses franchement, puisque dans le fond, il y en a quand même un certain nombre qui le pensent aussi, il m'agace, il a sa culture, il vient d'Amérique latine, c'est, on va dire, un pape de gauche, même, on peut aller jusque-là. Je voulais vous faire réagir à une tribune que je vous ai fait suivre de Jean-Luc Mélenchon qui a été publiée dans le journal La Vie, Fratelli Tutti, une vision partagée entre croyants et incroyants. C'est une tribune donc du député des Bouches-du-Rhône et du leader de la France Insoumise. Lui, on peut évidemment pas faire autrement que de le classer à gauche. Alors, il dit entre autres la première chose, il relève trois points. La première chose que je voulais relever, dit Jean-Luc Mélenchon, c'est ça, la critique du pape François du modèle économique néolibéral et de sa responsabilité dans le chaos. Ces mots ressemblent assez aux miens pour que j'en sois ému. Je n'insiste donc pas que la lecture du pape convainque autant que possible. Et puis, suit un développement sur la notion de peuple. Quand vous l'avez parcouru, Bernard Ribal, cette tribune, qu'est-ce qui vous a frappé? Comment ne pas se dire que si Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans Fratelli Tutti, c'est que de fait, il faudrait peut-être avoir des réserves ou considérer que c'est un texte un peu trop à gauche?
Ben, il était temps que Jean-Luc Mélenchon ait des points d'accord avec la spiritualité chrétienne, quand même. Ça sent quand même la récupération. Mais s'il arrive à récupérer aussi facilement Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'effectivement le texte s'y prête. Incontestablement, il y a des sonorités de gauche, et parfois même fortes, dit de façon énergique.
Ça veut dire quoi des sonorités de gauche? C'est quoi des sonorités de gauche?
Ah ben, par exemple, je cite un passage qui est le paragraphe 75 de cette encyclique. Enfoncer un peuple dans le découragement, c'est boucler un cercle pervers parfait. Et là, il a raison. Mais la suite maintenant. C'est ainsi que procède, alors ça sent le complotisme là, c'est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s'emparent des ressources et de la capacité de juger, et de penser.
Alors ça, c'est de gauche, ça c'est d'être de gauche que de penser de ça, non, enfin bon, c'est pas le sujet. Donc en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, pas François, qu'est-ce qui vous a frappé si vous deviez prolonger votre propos?
Si je devais prolonger mon propos, je dirais que ce n'est pas un texte de gauche, contrairement à ce que dit Mélenchon et contrairement à ce qu'il paraît quand on lit, mais c'est effectivement un texte qui veut, mais il y a longtemps qu'il cherche ça, le pape François, qui veut dissocier l'Occident et l'évangélisation. Dans le monde entier, en dehors des chrétiens que nous sommes ici en ce moment, dans le monde entier, l'expansion du christianisme est liée étroitement dans la tête des gens à la colonisation, à l'impérialisme, au capitalisme. Et ce que veut dire depuis le début, depuis que le pape François est le pape, ce qui veut dire c'est que non, il faut arrêter d'identifier l'Occident et l'évangélisation. L'Occident qui, dans son passé, peut-être dans son présent, fait peur, en tout cas dans le passé à juste titre, et l'évangélisation qui est tout autre chose. Elle n'est pas le colonialisme, l'évangélisation, elle n'est pas l'impérialisme, elle n'est pas le capitalisme. Et ça, ce n'est pas une démarche de gauche, c'est une démarche évangélisatrice.
Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans cette tribune, entre autres la deuxième seconde remarque de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'insister sur la notion de peuple, disant que quand le pape François incite souvent sur le peuple, en mettant en garde même sur les fausses visions politiques du peuple, sur le populisme, il le rejoindrait aussi dans sa pensée.
Alors, il insinue, sans le vouloir, une éventuelle progression du magistère dans les cinq principes qui régulent l'éthique sociale catholique. On a d'abord la recherche du bien commun, et après on a l'option préférentielle des pauvres qui est liée à la destination universelle des biens. Sous-entendu, mon argent, mes biens, leur finalité, c'est que ça profite au plus grand nombre. Et que ça profite au plus grand nombre, ça doit profiter au plus grand nombre, d'abord les pauvres. Et il y a cette expression de l'OPPP, l'option préférentielle pour les pauvres, et lui, il dit l'option préférentielle pour les peuples. Alors il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'on passe d'une conception individuelle de l'option préférentielle pour les pauvres, prendre le pauvre dans son individualité, et là de prendre la pauvreté dans ce nous qui doit être construit. Le pauvre n'est pas simplement le fruit d'une bonne œuvre à prendre en compte, il participe d'un réseau de relations, et on doit prendre en compte de manière ouverte la richesse qu'apporte le pauvre, qu'apporte sa culture, qu'apporte ses valeurs. Et c'est à partir de l'accueil de ses aspirations, de ses gestes, qu'un peuple, qu'une identité, qu'une culture peut se faire, une culture ouverte, une culture toujours ouverte sur l'avenir.
Il faut dire aussi que, pardon, je vous coupe, mais que Jean-Luc Mélenchon met ça en regard justement de l'idéologie ultralibérale. Il cite Margaret Thatcher, il dit cette conception qu'avait développée l'ultralibérale première ministre anglaise Margaret Thatcher, une chose comme la société n'existe pas, pour elle, seuls existent les individus.
Oui, alors la conception anthropologique, la vision de l'homme, de l'éthique sociale catholique, que reprend avec son langage très, très incarné le pape François, c'est un personnalisme communautaire. C'est-à-dire qu'on comprend la personne dans son unicité, il faut respecter chaque personne a une dignité propre, mais cette dignité propre s'accomplit dans la construction d'une commune unité entre les personnes, une communion, donc d'une communauté. Et cette notion de communauté liée à cette notion de peuple, et l'interface qui unit les deux, c'est la notion de culture. Et la culture, c'est la synthèse de la qualité des valeurs qui crée des liens entre les individus. Et le pape, qui est d'abord un jésuite, donc on prend les gens à partir de là où ils sont, on les accueille dans leurs aspirations les plus profondes, et ben, on essaye de voir ce qui, dans ces aspirations les plus profondes, va créer du lien ensemble. Évidemment, il met de côté, il tire à boulet rouge contre le néolibéralisme et bien sûr aussi le collectivisme et le communautarisme.
Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. C'est un autre passage dans cet avant-propos. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parcourir le premier chapitre, Les ombres d'un monde fermé. Je vous rappelle, chers auditeurs, que c'est notre semaine de Radio Don. Voilà, je vous mets au défi de trouver une autre radio qui, un mercredi matin à 9h, prend le temps comme ça de détailler l'encyclique du pape François et de laisser du temps aux invités pour développer leur pensée. Voilà, nous avons besoin de vous. Je vous redonne deux exemples. Un micro studio, c'est 350 euros. 350 euros. Un casque de studio, c'est 140 euros. Eh bien, ça n'existe pas. Et on ne peut pas avoir ça sans vous. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Fratelli Tutti, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec autour du plateau Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse et président du conseil scientifique de l'Institut des Hautes Études du Monde Religieux, et Tanguy-Marie Pouliquin qui est prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Précision pour ceux qui nous rejoindraient, merci de votre générosité à l'occasion de cette pause. Continuez, cette émission, cette radio n'existe pas sans vous. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Alors on prend le temps, on va se plonger dans le premier chapitre, les ombres d'un monde fermé, tout un programme. De fait, des ombres, il y en a beaucoup, et il y en a peut-être une importante, j'allais dire, et originale, en tout cas qui peut surprendre, c'est la perte du sens de l'histoire. C'est le paragraphe 13, c'est précisément pourquoi s'accentue aussi une perte du sens de l'histoire, dit le pape François, qui se désagrège davantage. On observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Alors vous commenterez, le pape François ajoute, elle ne laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dédié de contenu. Bernard Ribal, qu'est-ce que c'est que cette critique, perte du sens de l'histoire. Que veut dire le pape François et comment argumente-t-il?
Oui, je l'aurais pas, mais enfin rien demandé, hein, mais je l'aurais pas exprimé de cette façon-là. Mais l'idée me paraît très très intéressante, parce que l'un des aspects que souligne le pape François, c'est que nous devons avoir des racines si nous voulons accueillir et si nous voulons donner. On ne peut pas le faire sans racines, sinon on va se dissoudre. On est sur une... Alors c'est une difficulté de l'encyclique d'ailleurs. Hein. On est sur une ligne de crête où il y a un versant qui serait le fait de ne pas avoir d'histoire et de ne pas s'enraciner dans l'histoire, et dans ce cas-là on se dissout. Et de l'autre côté, on est tellement dans l'histoire, on est tellement enraciné dans l'histoire qu'on devient uniquement replié sur soi-même et qu'on n'a plus d'ouverture fraternelle aux autres. Évidemment, c'est ni l'une ni l'autre des deux pentes qui sont des précipices. Il faut rester sur la ligne de crête, c'est-à-dire s'enraciner pour pouvoir accueillir l'autre et se donner à l'autre. Sinon, on n'a rien à donner.
Tanguy-Marie Pouliquen, à propos de cette perte du sens de l'histoire, un peu plus tôt, le pape François parle de l'Europe aussi. Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de guerres, d'échecs et s'orienter lentement vers de nouvelles formes d'intégration. À titre d'exemple, le rêve d'une Europe unie capable de reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui l'habite a progressé. C'est le paragraphe 10. On a l'impression qu'il montre l'Europe, il désigne l'Europe comme un exemple justement d'un continent qui un jour, qui serait peut-être plus à l'abri que d'autres ou plus appelé à redonner ce sens de l'histoire.
Alors moi je suis tout à fait d'accord, hein. Je pense que l'Europe est un phare pour toutes les institutions supranationales dans le monde. L'Europe a voulu intégrer une logique nationale qui se construit à partir de la culture de chaque pays dans une intégration qui aujourd'hui a une dominante, c'est sûr, économique, mais qui a une dynamique d'ouverture et donc de travail ensemble. L'Europe, c'est l'économie sociale de marché, c'est-à-dire associer des logiques économiques de profit à une protection sociale des travailleurs, donc à intégrer le respect de la personne dans son activité propre de travail. Je voudrais revenir sur la question de la déconstruction, parce que le déconstructionnisme, qui est un courant de pensée contemporain, qui a été, je dirais, vulgarisé et répandu de manière, on pourrait dire maintenant, universelle, par un grand ténor de la philosophie française qui s'appelle Jacques Derrida, hein, qui est un juif agnostique, qui vise à travers cette pensée à toujours repartir de zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de... On pourrait dire qu'il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de racine dans l'homme. L'homme est avant tout une singularité, une différence à affirmer. Et donc, incroyablement, il y a une collusion entre cette affirmation permanente d'un jeu différencié, d'un jeu unique, avec le libéralisme qui, lui, veut défendre des comportements consommateurs hyper individualisé. C'est vrai, chaque personne est unique. Quand on pense la personne, la dignité de la personne, il faut l'accueillir dans son unicité, mais il faut l'accueillir dans son unicité à partir de son histoire, c'est-à-dire de l'histoire des relations qu'ont précédées. Et en Europe, c'est formidable, toutes les relations culturelles qui ont construit la rencontre des peuples, mais en fonction d'un projet commun. Et c'est vrai qu'en Europe, on a des éléments d'un projet commun, d'un cap commun. Voilà.
Alors, dans ce premier chapitre, s'ensuit après, on va dire, un tableau sombre, avec de multiples exemples des drames qui traversent le monde. Le pape François parle de nouvelles formes de colonisation culturelle, on pourrait éventuellement y revenir, de la marginalisation des plus pauvres, de la situation des personnes âgées, du racisme, de l'esclavage, de la faim aussi, parlant à propos de la faim d'un silence international inacceptable. Vous, Bernard Ibal, si vous deviez retenir un point sombre sur lequel le pape François a mis le doigt, lequel serait-il ? Quel serait-il, pardon ?
Ben, c'est peut-être le
un exemple.
L'idée générale, mais je donnerai un exemple après. C'est l'idée générale de qui reprend Laudato Si, à savoir une critique, radicale de ce qu'il appelle le paradigme techno-économique, c'est-à-dire l'association du libéralisme et des progrès technologiques, l'exploitation des progrès technologiques dans le sens du profit. Et alors autant la critique est très justifiée, hein, on connaît les injustices du système, on connaît les inégalités du système, on connaît les avidités matérialistes du système, mais en même temps, ça sent quand même un petit peu l'excès, si je peux me permettre, hein, parce que n'oublions pas que la carte géographique des pays démocratiques est exactement la même, mais exactement la même, que celle des pays prospères, néolibéraux ou sociolibéraux, et de culture chrétienne, sauf le Japon. Le Japon est dans l'Orient, mais...
Enfin, ils étaient de culture chrétienne avant d'être riches, non ? C'est...
Comment ?
Ils étaient de culture chrétienne avant d'être riches aussi, non, peut-être ?
Oui, mais justement, est-ce que sa critique n'est pas un peu trop radicale ? Parce que si ce n'est pas le bon modèle, il n'y a pas d'autre modèle pour l'instant. Il y a des modèles qu'il propose, mais des modèles existants ou des modèles approchants existants, ou des modèles très, 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 très éloignés, mais qui pourraient servir de référence, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Et on ne peut pas déconstruire, c'est lui qui emploie ce mot, mais il l'emploie contre des adversaires, mais lui-même déconstruit, là, hein. Lui-même fait de la déconstruction, et de la déconstruction historique en plus. Ça me paraît pas très adroit, quoi. Hein. Ça me paraît pas très grave non plus, parce qu'il faut bien garder l'idée générale, vraie, qui est juste, hein, d'une critique des injustices, des inégalités profonde du système.
Tanguy-Marie Pouliquen, est-ce que vous trouvez aussi que le pape François va trop loin ou qu'il en fait trop ? Il y a une autre expression, hein, qui revient quand même, qui dit, on va dire, le côté sombre du monde, ces ombres d'un monde fermé. C'est aussi cette fameuse expression de la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Rejoignez-vous Bernard Ibal dans cette analyse.
Alors moi, depuis le début du pontificat, je trouve que le pape nous fait faire les exercices de Saint-Ignace. Exercice Saint-Ignace, la première semaine, c'est regarder son péché sous le regard bienveillant de Dieu. Et là, bah, comme tout texte fondamental, il va nous montrer, bah, il faut qu'on regarde ce qui ne va pas. Mais entre le constat de ce qui ne va pas et la généralisation de ce qu'on voit qui ne va pas à tout, ben, c'est pas possible. Il faut quand même regarder l'évolution du monde dans sa phase, disons, 2015, à travers les objectifs du millénaire.
Oui, je me les étais sortis justement
De l'ONU, et on voit qu'il y a des progrès, mais absolument remarquables. Donc, cette première partie, moi, je me suis dit, tiens, j'aurais aimé beaucoup plus de chiffres, beaucoup plus une analyse sociologique, économique, chiffrée, et puis d'abord d'entendre une bénédiction. Alors il le fait à la fin, juste à la fin, avant de faire le chapitre 2. Mais d'abord, il tape sur là où ça ne va pas. Alors, au niveau, par exemple, de la grande pauvreté.
Voilà, est-ce qu'il y a un point qui vous a frappé ?
Par exemple, si on prend la grande pauvreté, alors on peut ne pas être d'accord sur les chiffres qui évaluent la grande pauvreté, je suis d'accord. Mais si on prend de manière constante les mêmes chiffres entre 1990 et 2015 au niveau de la grande pauvreté, avant le Covid, on passe de 36% de la population mondiale à 9%. Donc il y a une baisse radicale. Donc lui qui s'inscrit...
Et pourtant, on lit et on dit qu'il y a de plus en plus de monde dans les grandes agglomérations à travers le monde et que le nombre de personnes vivant dans les bidonvilles est de plus en plus important aussi.
Alors, la moitié des gens qui vivent, un tiers des gens qui vivent dans les grandes agglomérations vivent en état de pauvreté proche des bidonvilles dans le monde. Voilà. Mais ici, en termes, si on prend le pouvoir d'achat, pas la qualité de vie, mais le pouvoir d'achat, la théorie du ruissellement sur laquelle le pape s'inscrit un peu en faux, sous-entendu l'argent des riches va déborder de son surplus pour enrichir les pauvres. Alors, on va prendre un autre angle, par exemple, les femmes, la scolarisation des femmes. Si on prend la formation des femmes à l'âge de 30 ans, un homme qui a 30 ans a eu 10 ans de formation intellectuelle, en moyenne, dans le monde. Les femmes en ont eu 9. Et ça a évolué de 6 ans à 9 ans. Voyez. Et donc, il y a une accélération.
Sur la même période que vous citez.
Un peu plus long, mais si on prend à partir d'un peu plus loin. Donc, il y a des évolutions qui sont heureuses. Et je trouve que c'est bien de les rappeler. C'est sûr qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant. Il faut résoudre les problèmes d'aujourd'hui pour aller de l'avant. Mais honorons le travail de ceux qui ont fait évoluer les sociétés avec beaucoup d'efforts.
Alors à la fin de ce premier chapitre, après cette période, cette partie sombre de constat, le pape François donc développe une autre idée qui n'est pas nouvelle. Hein. Il plaide pour une culture de la rencontre. Il recite donc sa rencontre avec le grand imam donc Ahmad Al-Tayeb, dont on a parlé au début de l'émission. Le pape François a des phrases fortes. Hein. Nous sommes gavés de connexions. Nous avons perdu le goût de la fraternité. Qu'est-ce que vous retenez? Comment expliquer dans la pensée du pape ça donne quoi en fait, Bernard Ribal, la culture de la rencontre? Si vous deviez réexpliquer en fait cette expression qui est de lui ou pas?
Non, elle n'est pas de lui, mais elle est reprise par lui de façon tout à fait pertinente. Hein, et c'est vrai que nous sommes gavés de. Là, il a des mots forts, mais qui me paraissent tout à fait justifiés. On est gavés de connexion, c'est-à-dire qu'on est connecté avec le monde entier. J'ai la capacité, là, ce matin, dans 2 minutes, là, de contacter quelqu'un en Chine, ou, enfin, c'est peut-être mal choisi l'exemple, là, mais très loin, et parler avec lui. Je peux avoir des informations inouïes que je ne pouvais pas avoir avant, sur toutes les sciences, sur toutes les informations. Et en même temps, ben, on se trouve dans une grande solitude, quoi. Il y avait une chanson là-dessus, « Les villes de grande solitude ». Un paradoxe, quand c'est la ville, il y a beaucoup de monde, il ne devrait pas y avoir de solitude. On parlait de villes de grande solitude, mais maintenant, il n'y a pas que les villes qui sont de grande solitude. C'est Internet qui est de grande solitude, quoi. C'est la ville mondiale, 7,5 milliards d'habitants dans cette ville, et chacun est devant la grande solitude parce que on ne touche pas la fraternité. On reste dans la connexion, simplement. On effleure, on est dans le superficiel, on est même dans la culture du mensonge parfois, pour se montrer mieux, pour montrer une meilleure image de soi. Et on n'est pas dans la recherche de la chaleur humaine, du soutien de l'autre, et même de mon soutien personnel par l'autre. On est de plus en plus seul, et on le voit avec le confinement. Internet ne suffit pas, tout le monde est d'accord. Quoi.
Justement, alors avec un spécialiste d'Internet comme Tanguy-Marie Pouliquen, ça sera facile de conclure. Le pape François donc fait quand même un développement assez long hein, sur les informations et sagesse, sur les illusions de la communication. Il finit quand même par une note heureuse. Nous avons pu connaître, donc c'est à la fin de ce premier chapitre, nous avons pu reconnaître, en parlant de la situation sanitaire actuelle, comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans doute, ont écrit les événements décisifs de notre histoire commune. Et là, il cite une longue liste, médecins, infirmiers, pharmaciens, transporteurs, etc. etc. Culture de la rencontre, qu'est-ce que vous en retenez, un point particulier de cette culture de la rencontre, pour bien comprendre ce que le pape François veut dire, Tanguy-Marie Pouliquen?
La culture de la rencontre, elle s'opère à travers la rencontre du corps de l'autre. Et donc la numérisation des esprits à partir du temps moyen que passe en France 8h30 par jour devant un écran, hein, crée une dissociation entre la personne, la rencontre et son corps. C'est un visage que l'on regarde. Alors aujourd'hui, avec la question des masques, ça affaiblit cette qualité de rencontre. L'écranisation des esprits de notre société, il faut bien se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux, qui je veux rencontrer? À qui je veux parler? Est-ce que je veux parler à des écrans, à des robots? Est-ce que je veux parler à des personnes? Le pape cite la belle phrase de Gabriel Marcel, hein, « Je communique effectivement avec moi-même dans la mesure où je communique avec l'autre, mais avec l'autre fait de chair. » Derrière la numérisation des esprits, le paradigme technocratique, donc la technocratie au centre de la culture, il y a comme une désincarnation de la rencontre. Alors que l'on est bien dans la rencontre, que si on rencontre le corps de l'autre, si on rencontre sa chair, si on compte sa présence physique. C'est avec celle-là qu'on va construire une belle relation.
Allez, on va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver parce qu'on a encore le deuxième chapitre à parcourir, chapitre important s'il en est un étranger sur le chemin, où c'est une méditation autour de la figure du bon samaritain. Chers auditeurs, nous avons besoin de vous. Je vous le rappelle, une journée de programme, allez, un autre exemple, une journée de programme, c'est 6000 euros, 60 dons, si 60 personnes font un don de 100 euros, eh bien, c'est réglé, 100 euros au final, je vous rappelle, déduit d'impôt, ça fait 34 euros, 60 personnes donnent 34 euros, on a une journée de radio. Alors, je ne vous promets pas une journée de radio avec Tanguy, Marie Pouliquen et Bernard Ribal, mais en tout cas, ils font partie du lot, merci beaucoup. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Fratelli Tutti, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nos deux invités, Bernard Ribal, entre autres président des Semaines Sociales de Toulouse, et Tanguy Marie Pouliquen, entre autres professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Deuxième chapitre, un étranger sur le chemin. Alors il va falloir qu'on fasse un peu plus tôt que prévu. Toutes mes excuses aux auditeurs et à mes deux invités, mais c'est une semaine où nos programmes sont un peu bousculés par ce radiodon. J'avais oublié, mea culpa. On prend le temps, donc en tout cas qui nous reste pour le parcourir. C'est donc une méditation sur la figure du bon samaritain. Et alors le pape François, avec de fait ces formules qui sont bien à lui, laisse entendre qu'il n'y a pas... il y a deux catégories de personnes, je crois qu'il le dit presque comme tel. Il y a celui qui s'arrête, il y a simplement deux types de personnes, celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre. Ça, c'est le paragraphe 70. Et puis le paragraphe 73, il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent. L'une consiste à se replier sur soi, une autre à ne regarder que dehors. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux manières, Bernard Ribal? Regarder que dehors, qu'est-ce qu'il veut dire le pape François? Comment est-ce qu'il, entre guillemets, il continue l'exercice spirituel, comme disait Tanguy-Marie Pouliquen?
Oui, ça, c'est la suite de ce que nous avons dit à l'instant, à savoir que s'il n'y a pas un enracinement, il n'y a pas d'intériorité. S'il n'y a pas d'enracinement historique, il n'y a pas d'intériorité. On est tout son extérieur. C'est Sartre qui disait « Je suis tout mon extérieur ». On n'est pas obligé, justement, de partager la pensée de Sartre. Ce qui je le trouve extrêmement intéressant, qui va dans le sens de votre question, c'est que l'idée de prochain, et qui est très présente dans la parabole du Samaritain, cette idée du prochain est inversée par rapport à l'acception commune du prochain.
Alors vous en aviez
l'acception commune du prochain.
Vous en aviez déjà parlé, mais allez-y, précisez-le, oui.
Oui, le prochain, pour moi aussi d'ailleurs, hein, le prochain, c'est été pendant très longtemps autrui, celui que je rencontre, l'autre. C'est pas moi le prochain. C'est l'autre.
Donc c'est, en l'occurrence, dans la parabole, pardon, je vous coupe, mais en l'occurrence, donc le prochain, c'est pour le Samaritain, celui qui est au bord de la route, c'est ça?
Voilà. Et là, c'est pas du tout l'idée de la parabole. L'idée de la parabole, c'est celui qui est le prochain, c'est celui qui fait œuvre de charité. C'est pas celui qui est bénéficiaire de la charité, le prochain. C'est celui qui fait œuvre de charité. Alors, bien sûr, qu'on le savait avant qu'il le dise. Hein. Mais il a vraiment raison d'insister très longuement sur cet aspect des choses, il a l'expression intéressante et qu'il faut retenir, se rendre proche. Se rendre, pour la fraternité, c'est ça, c'est se rendre proche de l'autre. C'est pas rencontrer autrui qui, de façon passive, est mon prochain parce qu'il est à côté. Non, c'est se rendre proche, et donc se rendre proche, y compris du lointain. Et c'est là que vient l'idée générale de l'ensemble de l'encyclique, l'idée de fraternité universelle. Il n'y a de fraternité universelle que si je me rends proche de ce qui m'est lointain. Dans la parabole, le Samaritain est un lointain, puisque c'est le frère ennemi de l'habitant de la Judée. Mais pour nous, ça peut être le migrant. D'ailleurs, il le dit, et c'est pour ça que j'y fais allusion. Mais cette idée est très très forte, je crois. Je crois que nous avons intérêt à méditer cet aspect des choses, parce que l'acception commune, qui est à la fois celle du catéchisme, mais aussi qu'on trouve aussi dans l'Évangile, aimer son prochain comme soi-même, ça va dans le sens de l'acception commune. Mais là, il y a une précision dans la parabole du Samaritain sur laquelle le pape insiste à juste titre.
Pas la paragraphe 80, je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans cette méditation du bon Samaritain ?
Eh bien, c'est l'aspect universel du propos. On sort de destinataires et spécifiquement chrétiens. Nous sommes quand même invités de manière universelle à être proches. Et donc le pape nous renvoie finalement à notre posture d'existence, à notre attitude, à notre qualité d'écoute, parce qu'après on va décrypter cette possibilité d'être proche de l'autre, c'est le regarder, c'est l'écouter, c'est d'être bienveillant. Et le pape va concentrer l'interprétation de cette proximité, il le fera un peu plus loin, à travers le concept d'amitié sociale, qui est un concept nouveau, qu'il avait déjà utilisé lui-même lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, mais maintenant qu'il insère dans le magistère catholique. Amitié sociale, c'est ces gestes qui incarnent cette culture de la rencontre, ces petits gestes de bienveillance, de sourire, de proximité. Alors dans la parabole du Mont Samaritain, il situe l'excellence de cette proximité en fonction de celui qui a d'abord des souffrances. Donc mon prochain, c'est d'abord celui dont je suis proche et qui a mal. Et avec cela, la culture de proximité va pouvoir déployer toute son amitié sociale, et l'amitié sociale qui sera à la base d'une fraternité incarnée. À nouveau, le pape nous emmène dans une incarnation de l'éthique sociale, des relations sociales, à travers des gestes qui ont un effet historique concret.
Tanguy-Marie Pouliquen, il y a un autre passage, c'est le paragraphe 74. Le paradoxe, c'est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Je me suis arrêté dessus parce que, de fait, avec cet exemple, j'allais dire d'amitié, en tout cas de rencontre avec le fameux grand imam Mohamed Al-Tayeb, cité au long de cette encyclique, il y a aussi, un peu en fil rouge invisible, le fait que les chrétiens ne sont pas les seuls à être capables de cette amitié sociale.
Ah, bien sûr, tout à fait, ça. Pour ceux qui ont voyagé, moi j'ai la chance de voyager dans plusieurs continents, d'autres religions ont une capacité d'éveiller en moi mes angles morts, ce qui est mort. Il y a des attitudes, par exemple, vous voyez en Afrique, une capacité d'accueil, d'insertion dans le groupe, de gentillesse qui est remarquable. Donc la rencontre de l'autre, d'une autre religion ou d'une autre appartenance sociale va m'éveiller. Et c'est cette synergie, le pape nous invite à vivre dans une synergie permanente où les qualités des uns nous interpellent dans les qualités que l'on doit recevoir et que l'on doit vivre ensemble. Voyez. Et donc, c'est une qualité de la vie sociale où je dois discerner, m'ouvrir, une culture ouverte, à l'autre comme richesse, à tout autre comme richesse. Et la synergie de ces qualités rencontrées va développer une dimension universelle incarnée d'une fraternité qui pointera du doigt une source commune, une paternité, parce que cette bienveillance, elle vient d'une origine de celui qui est bon en lui-même, à savoir Dieu.
J'aimerais citer un autre passage, mais là, s'il n'y aura pas de questions, je vous prie de m'excuser. C'est le paragraphe 71. Que serait-il arrivé à cet homme gravement blessé ou à celui qui l'a aidé si la colère ou la soif de vengeance avait gagné leur cœur ? Il se fie au meilleur de l'esprit humain et l'encourage par la parabole à adhérer à l'amour, à réintégrer l'homme souffrant et à bâtir une société digne de ce nom. Merci pour cette première émission de lecture donc de Fratelli Tutti, chapitre 1 et 2. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. On continuera notre lecture des trois chapitres qui suivent. Chers auditeurs, c'est notre semaine de Radio Don. Vous le savez, on vous le répète. Pour ceux qui par hasard nous auraient rejoints, à nouveau cet exemple que j'ai cité en début de semaine, une heure de programme sur Radio Présence, c'est 250 €. Et figurez-vous que c'est peu, 750 € pour France Bleu, 7 000 € pour France Inter. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette émission, je pense qu'elle avait presque la qualité de France Inter. En tout cas, c'est des intervenants qu'on aurait pu presque retrouver là-bas, si d'aventure ils invitaient des religieux. Donc 250 €, 7 000 €. Faites votre choix, on a besoin de vous. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.